Maintenant un bon podcast.
Et bonjour à toutes et tous. Nous sommes en compagnie de quelqu'un dont on voit rarement le visage, mais souvent le masque. Vous avez sans doute ou certainement entendu de plus en plus parler d'un certain Bonnie Leludenaut. Bonjour, monsieur Leludenaut.
Bonjour.
Alors, on va garder votre identité cachée jusqu'à la fin. À la fin, on révélera. Donc, Bonnie, tu es une personne qui devient assez incontournable dans le milieu du jeu. Pourquoi ? Si, non, mais j'aime bien présenter comme ça, tu vois. Ça met tout de suite à l'aise. Parce que de ton métier de graphiste, en fait, et de ta passion ludique, est née de l'illustration ludique, évidemment. Malheureux. Et donc, on te voit de plus en plus sur des jeux. On peut peut-être retracer ce qui va se passer, aussi qui s'est passé déjà dans le passé au niveau de l'illustration de jeux. Comme ça, on te dit, ah, mais c'est lui. Donc, sur quel jeu est-ce qu'on peut retrouver tes illustrations à l'heure actuelle et dans le futur très proche, puisque SN se rapproche ?
Alors, en ce moment, on peut le voir sur déjà sur Cairn. Donc, après la première édition, là, il y a une nouvelle édition qui sort avec Scorpion Masqué et Black Rock, donc en plus grande échelle. Ensuite, sur tous les jeux Illopédie, donc Jurassic, Sherlock, Hockey Coral qui sort pour SN et le futur Antarctique. Et puis chez Cocktail Game avec Ooga Booga, où je suis co-auteur et illustrateur. Qu'est-ce que j'oublie ? Squad 72, en téléchargement sur le site de Roberto. Et voilà, principalement, je sais pas. Ouais, ça fait pour une année.
C'est sur 2010.
C'est à cheval sur les deux années. Là.
Donc en fait. Ça, c'est une de tes activités. L'arrivage sur Cairn, puisque c'est ça qui a donné lieu à ta première illustration ludique, comment est-ce que ça s'est passé, ça ?
Alors, c'est de la prostitution pure et simple. C'est-à-dire que je suis allé sur le forum d'un site communautaire ludique qui commence par « tr » et qui finit par « cr ». Et en fait, j'ai tout simplement dit que je voulais illustrer des jeux et que j'étais prêt à le faire moyennant des pots de confiture et des sangliers.
Et des pizzas.
Et des pizzas, important. Et en fait, je suis tombé sur des gens comme Arnaud Urbon, comme Daniel Cotebar, qui avaient des protos qu'il fallait embellir. Et on a commencé comme ça. Donc, je me suis retrouvé à faire des protos pour Loïc Lamy, pas mal de petits projets. Et certains qui ont abouti et puis qui m'ont donné d'autres contacts. Et voilà.
Parce qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'un prototype doit être vraiment de plus en plus léché pour attirer.
Oui, comme les jeux, en fait. C'est-à-dire que... Ok, un éditeur arrive à prendre du recul quand on lui montre un bout de papier avec trois croix, mais c'est tellement plus simple de l'alpaguer quand il passe entre deux allées, qu'il y a 200 prototypes et qu'il y en a un sur lequel on s'est un peu investi. Il a le sourcil qui frémit et il regarde un peu plus. Cela dit, il y a vraiment des fois des protos qui sont vraiment avec trois bouts de carton et qui fonctionnent bien mieux que des jeux shadés. Mais avec tout ce qui se développe maintenant avec les... je pense à des gens comme Witty Game, des gens comme ça, où on fait du portage, on va dire, tous ensemble, communautaire, de jeux. C'est important de voir que les gens qui investissent aussi bien du temps que de l'argent dans un jeu voient que derrière, il y a des gens qui se donnent du mal, même avant que le jeu soit produit, pour que ce soit beau, que ce soit... Voilà. Et en plus, mon travail de graphiste me permet d'apporter une touche d'ergonomie dans le jeu. C'est-à-dire pas que des jolies images... on travaille sur les icônes, sur la lisibilité des cartes, etc.
Et tu penses que le fait de réfléchir comme ça, déjà au niveau du prototype, ça modifie déjà le jeu en termes d'ergonomie, je veux dire, puisque on parle d'icônes, de pouvoir retrouver l'icône, typiquement, on sait que c'est du bois, par exemple, on sait que c'est de l'argile. Le fait de représenter ça dès le prototype, est-ce que ça oriente déjà la manière de développer le jeu, sa mécanique ?
Alors oui, quand c'est bien fait, c'est-à-dire que ça devient évident. Et du coup, l'éditeur a moins tendance à vouloir forcément changer le thème ou changer le... Donc, quand on arrive... on voit un jeu comme Cairn, quand on l'a proposé, il était fini. Il était fait, il n'y avait rien d'autre à faire. On aurait pu trouver un autre illustrateur qui l'aurait fait complètement différemment, mais c'est du curling préhistorique. Tu peux chercher, tu vas faire quoi ? Du curling futuriste ou... voilà, ou du curling chez les cow-boys. Mais non, là, ça marchait bien. Le design était loufoque, mais sans... Et quand on amène quelque chose comme ça, on se dit pourquoi rajouter des trucs ? Pourquoi autant l'éditer tout de suite, quoi. Comme pour Ooga Booga, d'ailleurs.
Ooga Booga, tu es co-auteur de ça. Ton co-auteur, c'est qui ?
Donc, c'est Daniel Cotebar, qui a fait 80% du travail. Le jeu ne séduisait pas suffisamment pour être édité. Il plaisait, mais il y avait quelque chose qui accrochait. Et donc, j'ai mis mon grain de sel, enfin, surtout mon coup de balai, on va dire, parce que ce que j'ai fait, c'était surtout la suppression de règles, choses comme ça. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup tourner sur Poitiers, sur Parthenay. On l'a présenté à Parthenay au Flip. Et on a reçu le Flip, là où il y avait Mathieu Despnous dans le public qui a dit « je prends ».
Justement, Ouga Bouga, c'est quoi ?
Alors, Ouga Bouga, c'est un jeu où, en fait, une tribu d'hommes préhistoriques se réunit pour élire un nouveau chef de clan. Et ça se fait sur la base de discours préhistoriques. Donc, on va crier « Miti, Po, Aka !» etc. etc.
Ce qui veut dire ?
Ce qui ne veut rien dire, en fait. C'est préhistorique. Hein,
il faut attendre que l'histoire évolue pour comprendre ce que ça voulait dire.
Non, en fait, c'est sur le principe d'un ciment, on va dire. C'est-à-dire qu'on doit mémoriser un maximum de mots. À chaque fois, on en rajoute un, on défie quelqu'un d'en rajouter un autre, etc. Jusqu'à ce que quelqu'un se trompe et tout le monde se moque en le pointant du doigt.
Et donc ça, tu as fait le design et le développement. Ça a été reçu avec beaucoup de succès au Flip, effectivement, parce que ça a été primé tout de suite. Ça fait quoi de commencer, entre guillemets, comme graphiste et puis d'avoir un jeu qui est édité ?
Alors, c'est spécial. Autant être édité, c'est à chaque fois une expérience différente. Parce que être édité avec Ilopelli, je sais qu'il m'a laissé faire pas mal de choses au niveau design. Je fais des expériences, les jeux sont tous différents, avec pas forcément un style graphique très, très maintenu. Alors que, et c'est génial parce que vraiment, c'est de la super qualité. Et puis quand on travaille avec Mathieu, c'est une autre sorte de consécration, parce que Mathieu Despnous, donc parce que on a illustré pour les boîtes en fer et on est rentré dans ces petites boîtes format carré. Donc ça, c'est un régal, surtout pour un passionné de jeu. Moi, je suis pas tant un geek qu'une groupie, c'est-à-dire je suis plutôt du genre à être attaché à la jambe de Sébastien Pochon pendant une heure, comme un vieux chewing-gum collé. Donc, mais avoir jamais joué à aucun de ces jeux parce qu'il m'ennuie. Ouais. Non, non. non, je suis une groupie, et donc voilà, travailler avec des gens comme Mathieu, comme Arnaud, etc. Et comme Roberto, parce que pareil, quand Roberto Fraga te demande si tu veux faire les designs de Squad 72,
mais ouais, je sais pas.
Voilà, tu hésites un peu, tu dis bon, c'est un peu. Non, non, évidemment, tu sautes, tu cours, tu voles. Et...
Alors, dans la logique de ces développements de prototypes et comme on disait, de la précision du développement d'un prototype, tu fais partie de Forge Next. Forge Next, donc, c'est une. Comment on peut dire, on dit comme c'est une spin-off.
Non, Forgenex, c'est une société, donc c'est une SARL, qui s'occupe vraiment de faire du portage de projets, c'est des agents d'auteur. On va dénicher, on va faire un travail de sourcing dans des endroits où les éditeurs n'ont pas le temps d'aller. Mm-hmm. On fait du défrichage de protos, c'est-à-dire que des fois on reçoit des protos, on en trie énormément, on y joue à beaucoup. On propose des changements de règles. Des fois même, on s'investit dans la rédaction des règles, c'est-à-dire qu'on devient quasiment co-auteur avec l'auteur sur le jeu selon les désirs de l'auteur, s'il veut continuer à s'investir ou nous laisser le paquet. Et on va, donc avec des gens comme Gaëtan Bojano, Laurent Picard, Arnaud Urbon, Damien, enfin on est...
Donc ça, c'est la souche Vassal Forge.
Voilà.
Vassal Forge qui faisait déjà le portage de jeu, mais là, vous vous êtes concentré sous forme de société pour le portage de prototypes, pour l'aide au portage, enfin l'aide au poussage de prototypes vers des éditeurs potentiels.
Bah oui, en fait, on est un peu le maillon entre l'auteur qui ne peut pas se déplacer sur les salons et l'éditeur qui n'a pas le temps de tout trier. On a de plus en plus des jeux de qualité, donc les éditeurs nous écoutent un petit peu plus que... Enfin, de plus en plus. On a un catalogue de jeux qui est tout le temps renouvelé parce qu'on ne prend que ce qu'il y a de bien et ce qui n'est pas bien, on essaye de le rendre meilleur. Du coup, les jeux circulent. On a peu de jeux, finalement, qui restent au fond du sac. Et les éditeurs savent, déjà on les cible, on leur propose pas tout comme ça, on va dire bah toi on a ça pour toi, on sait que c'est dans ta gamme, dans ce que tu peux fabriquer, on va pas aller proposer à un petit éditeur de jeux de cartes un jeu avec des figurines, on va éviter ce genre de choses, même si le jeu est très bon. Et donc on devient quand même gage de qualité tout en continuant effectivement l'activité de Vassal Forge, c'est-à-dire dématérialiser des jeux édités, futurs édités ou des prototypes qui nous plaisent. En ce moment sur Vassal Forge, on fait beaucoup de jeux de Todd Sanders, qui est un Américain qui fait des jeux extraordinaires. Et si on va sur Vassal Forge, on peut essayer pas mal de ses protos. Et vous allez voir qu'il voilà, y a encore beaucoup de choses à découvrir dans le patrimoine ludique international.
Heureusement. Un exemple de jeu qui est en train de passer par la filière Forge Next.
Alors,
si on peut en parler.
Oui, voilà, c'est ça le problème. Je suis une plaie là-dessus. Mais non, mais il y en a pas mal qui sont passés. Enfin, déjà, il y a des jeux comme 3 qui ont eu la dématérialisation, mais on a des jeux comme on va pas dire de nom, d'accord, bip. Donc il y a le jeu qui a été primé en même temps que Ouga Bouga appartenait, qui s'appelle Gaïa. Mm-hmm. dans le jeu s'appelait Gaïa, a été pris par Bip pour être édité bientôt. Donc c'est un jeu de plateau assez copieux. On lui a trouvé un éditeur qui lui correspondait, à qui ça plaisait, et ça se développe. Alors, je suis le mauvais élève. On me demande en général de faire les petits Mickey et de corriger les erreurs graphiques et de préparer les modules. Donc c'est vrai que Gaëtan répondrait mieux à tous les jeux qui sont en cours, mais il y en a un paquet.
Ça veut dire qu'il y a, il y a une audience côté éditeur pour te dire voilà, ça c'est un canal à travers lequel on est intéressé de découvrir des jeux.
Oui, c'est pas stérile du tout. Il y a vraiment une concrétisation. On le voit, ça va se voir de plus en plus, mais il y aura le petit logo qui va apparaître au dos de certaines boîtes, et puis nous on va s'en vanter. Jusqu'à maintenant, comme la société est toute jeune en fait, on a. En gros, les projets qu'on a mis en cours dès qu'on s'est créé n'ont pas encore eu le temps d'être imprimés, édités, distribués. Mais ça va arriver. Et voilà, rien que cette année, je crois qu'il y en a 3-4 qui seront, peut-être 2-3, on va dire.
Parfait. Mais donc, ça, c'est vraiment de la méta-édition. On s'est dit que c'est vraiment des modules d'activité autour du monde ludique qui se greffent et qui sont liés à l'avancée technologique. À l'avancée de technologique de notre environnement.
Ça c'est pour Vassal Forge, oui, quand on dématérialise, mais nous ce qu'on fait surtout c'est du gain de temps, c'est-à-dire il y a énormément d'auteurs, il y a beaucoup de jeux qui se créent, tout le monde connaît les chiffres avec les fameuses 1000 boîtes qui vont arriver à SN cette année, etc. Mais je crois que tout le monde a envie de trouver la crème de la crème, et des fois on se rend compte que c'est pas l'auteur le plus connu qui va amener le jeu le plus merveilleux, et c'est bien qu'on laisse la chance à des auteurs qui n'ont aucun moyen, c'est-à-dire le type qui est au fond d'un trou perdu et qui a à peine un ordinateur qui nous envoie les règles dactylographiées, on arrive quand même à lui faire quelque chose de bien. De temps en temps, on va lui faire nous un peu le graphisme en disant et comme ça ton jeu sera présentable, et donc c'est comme ça qu'on espère participer au renouvellement un peu, on amène du sang frais quoi. Voilà.
Alors ça c'est donc illustration de jeu, co-auteur de jeu, Forge Next, mais il y a aussi des activités géographiques, puisque on a vu passer sur internet de temps en temps des choses autour du Meeple, M-I-P-E-U-L, qui était bien sympa parce qu'on a vu des badges des badges qui étaient disponibles sur internet. Quelles sont tes activités à Poitiers, parce que tu es de Poitiers, par rapport au jeu?
Donc sur Poitiers c'est simple, je suis fondateur d'une asso d'animateurs de jeux. Donc on a une vingtaine d'animateurs. On fait un tas d'animations autour du jeu aussi large possible. Ça va être du jeu de rôle, au jeu de cartes, à tous les jeux de plateau. On intervient dans plein d'endroits, des hôpitaux, des prisons, des musées maintenant. Là. On essaie de trouver des petits deals ou avec les personnes avec qui on intervient ou avec des éditeurs pour montrer certains types de jeux. Et donc on fait une quarantaine d'animations par an. Ce qu'on fait d'autre sur Poitiers, c'est qu'on s'occupe d'un portail qui s'appelle Ludivienne, qui permet d'accéder à toutes les assos de jeux de Poitiers et à voir ce qui se fait dans le temps. C'est-à-dire, vous arrivez le jeudi, le jeudi c'est tel asso, vous arrivez le vendredi, il y a tel asso qui peut faire ça. Donc on s'occupe de ça. Et donc ça, c'est vraiment sur Poitiers même, où on fait aussi de l'aide à la création de mini-jeux de société avec des enfants, des fois des choses comme ça. Et sinon, on fait les badges, c'était un délire perso avec des partenaires ponctuels. À un moment, il y a eu Tom Varchès qui nous avait fait pas mal. Et sinon, on fait.
Tom Varchès, c'est l'auteur, entre autres, de Jungle Speed.
Voilà, c'est ça. L'auteur barré de Jungle Speed et autres, qui a un temps fou à faire des âneries. Et sinon, effectivement, il y a cette expo. Donc maintenant, ça va faire la deuxième année révolue. J'essaye régulièrement de demander aux éditeurs et aux auteurs que je croise, et quand j'oublie pas, de m'envoyer des images, des jeux en cours, des esquisses, des choses comme ça. On se retrouve avec des planches, on essaie de conditionner au format A3. On a tout ça en numérique et on envoie un DVD à des assos, à des structures qui s'engagent à ne pas vendre, pas donner, pas offrir les images, mais à exposer gratuitement ces images dans leurs locaux. Et on s'en sert de moyen d'accès au jeu. C'est-à-dire que des gens qui sont un peu réticents, souvent au plateau et au dé, regardent l'expo et disent « Ah, c'est sympa, ça !» C'est une occasion de leur dire « Tourne-toi et regarde cet univers-là, tu peux rentrer dedans et y jouer. » Et ça marche.
par boutade ou peut-être de moins en moins, on parle de Poitiers capitale du jeu. C'est pourquoi ?
Alors, Poitiers est la capitale du jeu d'abord parce que j'y suis.
Oui, ok, merci.
Non, non, plus sérieusement, Poitiers c'est une ville d'à peu près de 80 000 habitants avec 3 boutiques, assez dynamique, avec une quinzaine d'assauts de jeux. Et il y a de plus en plus, on va dire Poitiers au sens très large, hein, c'est-à-dire Poitiers et c'est sa grande banlieue. Il y a donc énormément d'activités qui se multiplient. Et là, la dernière qui a fait mouche, c'est on a organisé un petit week-end, donc même pas 48 heures. On a dit quelles assos sont partantes, on en a eu 15. On a dit est-ce qu'il y a des bénévoles, on en a eu 60. Et on a attendu les visiteurs, on en attendait 300, on en a eu plus de 650. Donc c'est voilà, c'est il y a une espèce de dynamique, un peu comme les maisons hantées sur les cimetières indiens. Nous, on a des maisons ludiques sur un cimetière de je ne sais pas quoi, de pions, de alors, bref, voilà.
Donc c'est parce que vous sentez qu'il y a une dynamique que vous ne ressentez pas ailleurs. Il y a une concentration ludique là, ou c'est juste pour flatter son ego.
Non, il y a une bonne moitié de chauvinisme, mais il y a aussi une vraie concentration. Alors des fois ça tient à peu de monde. On a Libellude qui est à Poitiers. On a des gens comme Bertrand Benoît qui est l'illustrateur donc de Claustrophobia, de Gozou entre autres. C'est vrai qu'on a des boutiques finalement qui bougent pas mal. Non, des fois ça tient à une poignée de gens qui se sont juste retrouvés au bon endroit. Donc oui, non, des fois voilà, je pense que Poitiers est hyper active pour ça, pour une poignée de gens qui se sont retrouvés là quasiment par hasard et qui se motivent les uns les autres, ou des fois qu'ils se font de la concurrence, mais finalement c'est le public qui gagne, parce que quand on fait une soirée jeu et qu'on dit oh non, nous aussi on va en faire une, ben, le public il a le choix entre deux soirées jeux du coup, et tout le monde y gagne. Enfin, voilà.
Excellent tout ça. Donc Bonnie le Ludonaute a un vrai nom. Ouais. Il s'appelle David Bonifaci. Bonjour David Bonifaci.
Bonjour.
Donc voilà, tu es graphiste, on va dire, dans la vraie vie. Mais cette vraie vie commence à fusionner avec le monde ludique, donc ça, on en est ravis. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur un autre événement ludique.
Merci beaucoup.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.